VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 5 janvier 2017. En direct de Washington, Idrissa Sédoulia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
À Gambie, le chef d'état-major de l'armée fait à son tour volte-face et appuie maintenant le président Yahya Jammeh dans son refus de reconnaître sa défaite à la présidentielle.
Le Conseil de sécurité de l'ONU appuie l'accord du 31 décembre en RDC et réaffirme l'importance d'organiser des élections crédibles avant la fin de l'année.
Le Conseil a par ailleurs condamné dans les termes les plus forts l'attaque qui est en Centrafrique a coûté la vie à deux casques bleus marocains de la MINUSCA.
La tension dans le sud libyen est source d'inquiétude, a dit Martin Kobler, l'émissaire de l'ONU en Libye.
Et ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le chef d'état-major de l'armée gambienne, le général Ousmane Badji, a renouvelé son soutien au président sortant, Yahya Jammeh, qui refuse de céder le pouvoir malgré la menace d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Michel Joseph.
Dans une lettre adressée au président Jammeh et reprise mercredi par un journal proche du pouvoir, le général, lui, réitère l'assurance de la loyauté indéfectible des forces armées gambiennes. À la suite de la victoire de l'opposant Adama Barrow à la présidentielle du mois dernier et la reconnaissance de ce résultat par le président Yahya Jammeh, Ousmane Badjie avait pourtant fait une déclaration publique pour demander à l'armée de se mettre aux ordres du tombeur du président élu. Mais très vite, il a suivi le président sortant dans son revirement et sa décision de contester la validité du scrutin du 1er décembre. Le général Badjie dirigera ensuite personnellement le quadrillage du siège de la commission électorale gambienne. Pour sa part, le président sortant gambien semble déterminé à engager l'épreuve de force avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il accuse l'organisation sous-régionale de lui avoir adressé une déclaration de guerre en se disant prête à user de tous les moyens pour le faire partir du pouvoir.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a enjoint hier le pouvoir et l'opposition en RDC d'appliquer rapidement et complètement l'accord prévoyant la cogestion du Congo entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur. Dans une déclaration unanime proposée par la France, les 15 pays membres réaffirment l'importance d'organiser des élections crédibles avant la fin de l'année.
République centrafricaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a présenté ses condoléances et condamné dans les termes les plus forts l'attaque qui a coûté la vie à deux casques bleus marocains de la MINUSCA. Ils ont été tués dans le sud-est du pays par des hommes armés qui ont attaqué leur convoi, a annoncé mercredi la MINUSCA dans un communiqué. Les attaques visant des casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre, a ajouté le Conseil dans ce communiqué.
L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, s'est dit préoccupé par l'évolution de la situation, notamment les récents incidents entre groupes rivaux. Gabi Dorsil nous en dit plus.
La tension dans le sud libyen est source d'inquiétude, a dit Martin Kobler, appelant à la modération les forces pro-gouvernementales et les milices rivales. Cet appel intervient suite à une attaque en début de semaine contre un avion transportant des officiers et dignitaires de la région de Misrata, 200 km à l'est de Tripoli, qui se rendait à des obsèques dans le sud de la Libye. L'attaque attribuée aux forces du général Khalifa Haftar, opposée au gouvernement d'Union nationale, a fait un mort parmi les civils. Plusieurs militaires ont été blessés. Les miliciens de Misrata ont décidé de renforcer leur présence dans la zone de Joufra, plus de 600 km au sud de la capitale, ravivant davantage les tensions. Martin Kobler exhorte les belligérants au dialogue afin d'éviter le retour à un conflit ouvert. La Libye reste encore divisée entre deux parlements, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk dans l'Est, dont une majorité des membres soutient le général Haftar.
Plus de 80 migrants à destination de l'Italie se sont retrouvés après 3 jours en mer sur une plage en Libye où ils ont été secourus. Eric Manirakiza.
Accroupis sur le sable, à moins de 2 mètres d'un cadavre, un rescapé dit qu'ils sont montés à bord du bateau à Sabratha, une ville de l'ouest de la Libye, à 70 km de Tripoli. Sur une mer agitée, le bateau a échoué à poursuivre sa route et plusieurs migrants ont sauté pour rejoindre la plage, croyant être déjà en Italie. L'autre embarcation a fait demi-tour et repris le large après avoir constaté qu'ils étaient encore en Libye. Ces migrants, secourus pour la plupart des Sénégalais, ont été transférés vers les centres d'hébergement. Un responsable de l'équipe d'intervention du Croissant Rouge libyen a aussi indiqué avoir récupéré 5 corps sur la plage. En 2016, l'ONU affirme que plus de 5000 migrants ont trouvé la mort dans leur tentative de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.
En Égypte, les autorités ont annoncé hier l'arrestation de 4 nouveaux suspects dans l'attentat de décembre contre une église copte au Caire. Cette attaque avait fait 27 morts et a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Selon les autorités, l'un des nouveaux suspects serait lié à la confrérie interdite des frères musulmans qui a nié toute implication dans l'attentat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie affirme avoir identifié l'auteur de l'attentat ayant fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul au Nouvel An, un carnage qui vise, selon le président Erdogan, à diviser la société turque. Toujours en fuite, l'assaillant qui a attaqué tôt dimanche matin l'Arena, une des boîtes de nuit les plus connues de la métropole turque, a été identifié et son domicile fouillé, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie Mevlut Cavusoglu, cité par l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu.
Le régime syrien et ses alliés ont multiplié raids et tirs d'artillerie mercredi contre une région rebelle proche de Damas, la Turquie les accusant de violer le cessez-le-feu et de menacer les prochaines négociations en vue d'un règlement du conflit. La Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, alliée du régime syrien, ont parrainé un accord qui a permis l'entrée en vigueur le 30 décembre d'une nouvelle trêve entre insurgés et régime avant la tenue vers fin janvier de négociations de paix à Astana, au Kazakhstan.
En Irak, les milices pro-gouvernementales, majoritairement chiites, utilisent les armes fournies notamment par les Occidentaux pour commettre des crimes de guerre, dénonce Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. Parmi les allégations de l'ONG, disparition forcée, enlèvement de milliers d'hommes, majoritairement sunnites, torture et exécution extrajudiciaire, ainsi que la destruction injustifiée de biens.
En Israël, un tribunal militaire a déclaré hier coupable d'homicide volontaire un soldat franco-israélien accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien blessé. Le verdict est tombé après des mois d'un procès exceptionnel qui a divisé profondément ses compatriotes. Le sergent Elor Azaria, 20 ans, qui encourt 20 ans de prison, est le premier soldat israélien reconnu coupable d'homicide volontaire depuis 2005, selon la presse.
Les États-Unis vont transférer 4 détenus de Guantanamo vers l'Arabie Saoudite dans les prochaines 24 heures, ont annoncé mercredi des responsables américains, signalant le début des ultimes transferts voulus par Barack Obama. L'administration démocrate a informé le Congrès de sa volonté de transférer jusqu'à 19 détenus vers 4 pays au moins. Il s'agit de l'Italie, Oman, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, avant l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier prochain, avait-on appris en décembre. 40 des 59 détenus actuels devraient rester à Guantanamo après ces transferts, malgré la promesse d'Obama de fermer la prison de la base américaine de l'Est de Cuba. Donald Trump, pour sa part, a promis de la garder ouverte et de la remplir de mauvais gars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Écho, John Linden.
Les députés togolais ont adopté le budget national pour 2017 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1227,4 milliards de francs CFA. On note dans ce budget une progression de plus de 22% par rapport au budget initial de 2016. Le taux de croissance prévisionnel en 2017 est de 5%. Le taux d'inflation, lui, est estimé à 2,5% du PIB. Au Cameroun, le rapport 2014 de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, publié mardi par le ministère des Finances, indique que le trésor public camerounais a collecté au titre de recettes pour les industries extractives et du transport pétrolier une enveloppe de 842,37 milliards de francs CFA. Selon le même rapport, cette somme a contribué à hauteur de 26,94% dans le budget de l'État et à hauteur de 0,14% à la création d'emplois au Cameroun.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Qui sera le joueur de football africain de l'année 2016?
Eh bien, la cérémonie de remise des trophées de cette Confédération africaine de football se déroulera ce soir. Trois finalistes, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund, tenant du titre favori à sa propre succession. Face à lui, l'Algérien Riyad Mahrez, qui a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale en remportant le championnat d'Angleterre avec Leicester. Mahrez, qui a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de Première Ligue par ses pairs ainsi que par les supporters. Enfin, le Sénégalais Sadio Mané, auteur d'une excellente saison avec Southampton. Le Sénégalais a depuis et surtout été transféré à Liverpool contre 40 millions d'euros, une somme record pour un footballeur africain.
Résultat des matchs amicaux d'hier sur la planète football.
Eh bien, la Tunisie a battu l'Ouganda 2-0 en match de préparation à Tunis. Quant au Burkina Faso, il est tombé 1-0 devant l'équipe locale du Maroc, toujours pour ce match de préparation en prélude à la CAN 2017.
On connaît la liste des 23 Marocains retenus pour disputer la CAN au Gabon.
Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a dévoilé sa liste, a noté les absences de Younes Belhanda et d'Oussama Tanane, contraints de déclarer forfait suite à des blessures. Belhanda, le milieu offensif de Nice, auteur d'une première partie de saison remarquable, a été victime d'une fracture à un orteil juste avant la trêve. Quant à Tanane, il souffre, lui, d'une pubalgie.
Transfert en Angleterre pour un joueur béninois.
L'attaquant international béninois d'Aston Villa, Rudy Gested, s'est engagé jusqu'en 2020 avec Middlesbrough. Selon la presse britannique, le montant du transfert de l'ancien international français des moins de 19 ans est évalué à 7 millions d'euros.
Élimination de Serena Williams au tournoi d'Auckland.
Oui, l'américaine numéro 2 mondiale a été éliminée au deuxième tour du tournoi d'Auckland par sa compatriote Madison Brangle. Le score 6-4, 6-7, 6-4. C'est une mauvaise nouvelle pour le clan Williams après le forfait de la sœur Venus en raison d'une douleur au bras droit. Serena Williams, tête de série numéro 1, dont c'était le retour sur les courts depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open il y a 4 mois, a donc été battue par la 72e joueuse mondiale en 2h et 13 minutes. Allez, Idrissa, comme d'habitude, on parle des parquets américains, c'est la NBA.
Oklahoma City, Charlotte, 112-123. Atlanta-Orlando 111-92, Milwaukee-New York Knicks 105-104, Chicago-Cleveland 106-94.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Washington Forum ce jeudi, retour sur la situation politique en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est écrit noir sur blanc sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pouvoir et opposition vont co-gérer le pays durant la transition entre la fin du mandat de Joseph Kabila et l'élection de son successeur fin 2017. Quel chronogramme pour la mise en place de cet accord ? Cet accord et la Constitution vont-ils pouvoir fonctionner ? Quel partage du pouvoir ? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les chrétiens catholiques et certains volontaires marchent pour la paix en mémoire des martyrs de l'indépendance. Après des émeutes du 4 janvier 1959 à Kinshasa pour demander l'indépendance. Les initiateurs de cette marche, regroupés au sein d'une association appelée Hommes de Dieu, veulent, selon eux, faire passer un message de compassion aux martyrs et inciter les politiciens à œuvrer pour donner la paix aux Congolais en cette année 2017, nous dit de Goma notre correspondant Charlie Kasereka.
Ils sont chrétiens catholiques et leaders communautaires. À fond de leur marche d'environ 20 km dans la ville de Goma, c'est surtout compatir avec les martyrs du 4 janvier 1959 à Kinshasa pour l'abbé du diocèse de Goma, Arsène Mounemboué. Initiateur de la marche, cette date qui est liée directement à l'indépendance de la RDC mérite d'être célébrée en politique comme dans la vie chrétienne, surtout avec les tensions politiques qui traversent actuellement la RDC.
Ça, c'est le message prophétique, la présence de l'Église dans le tournant historique de notre pays du monde. Parce que nous sommes là pour éclairer les consciences des peuples, pour arriver vraiment à la paix, à la liberté.
Le 4 janvier, c'est un peu politique.
Non, tout est politique, mon frère. Là, quand il s'agit de la vie, la politique n'est pas séparée de la vie spirituelle. Et il n'y a pas une partie de l'âme et le corps.
Cet homme de prière pense que tout le monde est appelé à prêcher la paix autour de lui. Arsène Mounemboué revient.
C'est une occasion où les gens sont attentifs à cet événement, de lancer un message. C'est pourquoi nous avons choisi cette date pour marcher au nom de la paix, au nom de l'unité et de la communion.
Les participants à la marche semblent être convaincus qu'à travers cette action, le message est passé et sera pérennisé dans les églises comme dans les communautés.
Personnellement, je marche avec mes frères pour qu'il y ait vraiment la paix dans notre pays, surtout cette année que nous débutons 2017. Que ça soit vraiment l'année des changements.
Le gouverneur du Nord Kivu, qui insiste sur la cohabitation, appelle tous les groupes armés à déposer les armes. Il a rappelé que ce phénomène groupes armés a bloqué les investisseurs à rejoindre l'Est de la RDC pour la création de l'emploi. Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu.
À ces groupes armés qui pillent dans nos espaces, le message qui doit leur être lancé, c'est de dire, vous créez de l'insécurité, vous privez à vos espaces de s'inscrire en ordre utile dans la compétition politique de demain. Mais également, il y a beaucoup de partenaires qui voudraient venir ici, mais qui ne savent pas engager leurs fonds dans la province parce qu'ils estiment que ça sera des fonds perdus.
La date du 4 janvier 1959 rappelle dans l'histoire de la RDC le début des révoltes populaires contre les colons belges. C'était après l'annulation d'un meeting du parti politique du premier président de l'actuelle RDC, Joseph Kasavubu, alors que se jouait un match de football avec Club Mikano, une équipe sponsorisée par une compagnie belge au stade Tata Raphaël. Les fanatiques de l'ASV Club, déçus par la défaite, se joignèrent alors aux mécontents de la Bako, les partis politiques de Kasavubu, et cette jonction a entraîné des révoltes spontanées appelées émeutes du 4 janvier 1959 qui a fait selon les chiffres officiels 47 morts et plus de 240 blessés. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le gouvernement camerounais, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales partenaires ont lancé le 3 janvier dernier à Yaoundé un plan d'intervention de 310 millions de dollars pour fournir une assistance vitale à 1,2 million de personnes dans les régions du nord et de l'est du Cameroun. Tout en couvrant les besoins immédiats des plus vulnérables, ce plan met également l'accent sur l'action complémentaire et la coopération avec le gouvernement et les partenaires au développement. Pour en parler, John Linden a joint à Yaoundé Max Schott du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
Alors, les populations du Cameroun font aujourd'hui face à des impacts d'une triple crise humanitaire. La première crise est liée à des violences dans le nord-est du Nigeria, les raids transfrontaliers et les attentats suicides au Cameroun qui ont causé des déplacements des réfugiés nigériens d'environ 80 000 de personnes et des déplacés camerounais à l'extrême nord d'environ 200 000 de personnes. La deuxième crise est liée à un conflit en République centrafricaine qui a provoqué un afflux de réfugiés, notamment dans les régions de l'Est et de Nord d'Adamawa, d'environ 270 000 de personnes. Et la troisième crise, c'est en juxtaposition avec la crise de l'extrême nord, qui est liée à des vulnérabilités chroniques et une crise structurelle qui a des impacts sur l'insécurité alimentaire, la malnutrition et aux vulnérabilités aux épidémies.
Vous dites dans un communiqué aujourd'hui que 310 millions de dollars sont nécessaires pour pouvoir venir en aide à près de 1,2 million de personnes. Où allez-vous trouver cet argent?
Les 310 millions de dollars, ils vont être dits nécessaires pour couvrir les besoins de seulement 41% des personnes en urgence besoin d'assistance. En total, il y a 2,9 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire et les 310 000 de dollars vont cibler 1,2 million de personnes. Le plan de réponse humanitaire de l'année dernière, il a été financé à 64% ou 178 millions de dollars et on espère que les donateurs vont donner encore plus de générosité sur le plan de réponse humanitaire 2017.
Au-delà de cet appui immédiat, est-ce que vous avez une stratégie à long terme pour éviter ce genre de situation, non seulement au nord et à l'est du Cameroun, mais aussi dans d'autres régions du pays?
Évidemment, nous espérons l'assistance humanitaire ne sera plus nécessaire dans le proche avenir. Les acteurs humanitaires travaillent en proche collaboration avec les acteurs de développement pour renforcer la résilience et la capacité des populations. Et c'est pourquoi le plan humanitaire, c'est un plan pluriannuel de 4 ans pour s'aligner aussi avec les planifications de développement de long terme.
Max Schott du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, la plateforme revendicative syndicale exige l'annulation du décret portant réduction des indemnités de 50%. Le retrait de la loi 8 portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics adopté le 30 décembre dernier par l'Assemblée nationale. Devant le refus sans explication du gouvernement d'ouvrir le dialogue, les syndicalistes suspendent le service minimum instauré le 19 décembre. Nathalie Barge a joint Michel Barka, président de l'Union syndicale du Tchad.
Le gouvernement nous a soumis à une série de répressions. La dernière mesure qui a été prise, c'est la modification de la loi, la réglementation du droit de grève au Tchad. Cette loi, d'ailleurs, qui est très dure, qui est antisociale, il a ajouté encore certaines dispositions tout à fait contraires aux normes internationales, à la Convention 87, je vais dire, le droit syndical. Ce durcissement a poussé les travailleurs, eux aussi, à reculer parce que le gouvernement a lui-même lancé un appel à la reprise du travail contre toute la volonté des dirigeants syndicaux et les travailleurs n'ont pas répondu à son appel.
Est-ce que le gouvernement a réglé les salaires du mois de décembre comme promis?
Non, malheureusement, à ma connaissance, non. Ils l'ont lancé comme effet d'annonce le plus souvent vers la fin de l'année qu'ils allaient payer le salaire de décembre pour que les gens puissent reprendre le travail de trois, mais personne ne m'a confirmé le paiement de ces salaires.
Où en êtes-vous dans les discussions? Est-ce que le gouvernement accepte d'écouter vos propositions ou pas?
Malheureusement, non, puisque le gouvernement ne dialogue pas. Vous savez que pour commencer à dialoguer avec nous, il a fallu attendre 2 mois. Et c'est seulement ces derniers temps, dit-il, pour sauver l'année scolaire et pour que les administrations reprennent. Il a commencé à faire un semblant de dialogue, mais qui en réalité n'a rien donné. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est de prendre des mesures pour mieux nous frapper. C'est tout.
Est-ce que vous avez pu parler éventuellement au ministre de la fonction publique?
Non. Le gouvernement, quand il a arrêté de dialoguer avec nous, il a déposé la loi, l'amendement de la loi sur la restriction de la grève au niveau de l'Assemblée. Et depuis ce jour-là, il a fait un sortie médiatique qui doit intimider les travailleurs. Il n'y avait pas un autre langage que celui-là. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas repris langue.
Et combien y a-t-il d'arriérés de salaire, hein? Combien de mois?
En fait, nous sommes arrivés au mois de décembre, hein, et on a un mois de frais de déplacement qui ne sont pas payés. Mais il y a les arriérés de pension qui ne sont pas encore payés. Il y a les suivis de maîtres communautaires qui ne sont pas encore payés. Et alors, pour les maîtres communautaires, ça fait 30 mois. J'ajoute à cela les bourses des étudiants. Les travailleurs du supérieur ne vont pas reprendre tant que les étudiants ne sont pas payés. Madame, au-delà des arriérés de salaire, vous savez que le gouvernement a pris une autre mesure qui nous pénalise, celle qui consiste à diminuer de 50% les indemnités des travailleurs. Et les plus frappés sont exactement ceux qui travaillent dans les hôpitaux, leur indemnité de garde. Sans ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hein, en travaillant, en passant la nuit dans les hôpitaux.
Michel Barka, président de l'Union syndicale du Tchad, au micro de Nathalie Barge, qui a tenté sans succès hier d'obtenir une réaction du gouvernement tchadien.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Mali, et à cause de la mauvaise saison agricole, les paysans et les femmes maraîchères de Baguineda craignent que la famine ne s'installe dans leur commune. Ils ont lancé avec les populations locales des SOS à ce sujet. Notre correspondant Kassim Traoré s'est rendu sur place à Baguineda.
Baguineda est située à 25 km de Bamako. Elle est la zone agricole la plus proche de la capitale, avec une maîtrise d'eau pendant toute l'année.
Je m'appelle Sambou Konate, paysan à Congo Baguineda. Cette année, la récolte du riz n'a pas été bonne à cause d'une maladie. Elle a attaqué nos champs de riz. J'ai cultivé un hectare. Au lieu de 100 ou 80 sacs de paddy, je n'ai eu que 6 sacs. Ces 6 sacs décortiqués ne dépassent pas 2 sac de 100 kg de riz. Imaginez ma perte.
Les premières victimes de cette mauvaise saison agricole s'appellent les femmes. Certaines d'entre elles parlent d'une double perte.
Je suis Amidjara de Tayouma. Nous avons des difficultés cette année à faire le maraîchage parce qu'il n'y a pas d'eau dans les canards. Les tomates, les oignons et aubergines que nous avons déjà plantées sont mortes parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais la terre aussi ne donne pas cette année, le riz aussi n'a rien donné, alors que nous cultivons sur le même espace depuis des années. Mais cette année, on n'aura rien. La famine s'installe chez nous.
Et pourtant, plusieurs jeunes de Baguineda avaient fondé beaucoup d'espoir sur la saison agricole passée. La déception fut grande pour eux.
Je m'appelle Sekouba Djara de Suntou Gumba numéro 1. Cette année, ça a été la déception. Les champs de riz n'ont pas reçu. Les 100 d'un hectare qui peuvent donner 100 sacs n'ont donné que 4 sacs, soit 6 ou 10 par endroit. À Baguineda, aujourd'hui, c'est la disette. La famille est la conjoncture. On se prépare pour la contre-saison, mais on a peur d'avoir de l'eau parce que le grand canal est en réparation. Si on ne fait pas de contre-saison, on va mourir de faim cette année.
Comme le malheur ne vient pas seul, cette année aussi, le canal d'irrigation de la localité est en réfection, ce qui veut dire que la contre-saison ne sera pas possible.
Je me nomme Oumoussamake de Tchema. Cette année, c'est la galère. On n'a rien. La culture du riz, la contre-saison, rien ne marche. On se demande quoi faire. Nous avons des enfants à nourrir. On ne connaît que l'agriculture. Et voilà que tout ce qu'on a semé a été un échec. Tous les grands paysans n'ont pas eu plus de 40 sacs pour des gens qui cultivent 5 hectares. C'est la catastrophe. Pour des investissements de 300 à 600 000 francs CFA, si tu n'as pas 50 000 et dire qu'on n'a pas d'eau dans le canal pour la contre-saison. Nous demandons de l'aide à toutes les bonnes volontés.
Face au manque d'eau dans le canal d'irrigation, certaines femmes ont creusé des puits pour faire le maraîchage avant la saison de chaleur.
C'est Amnata Damele de Moufa. Nous avons fait des tubercules, des oignons et du haricot. On a été obligé de creuser un puits parce qu'il n'y a pas d'eau dans le canal. Ce puits-là aussi va s'étaler vers le mois de mars. C'est pourquoi nous demandons de l'aide afin qu'on puisse nourrir nos familles. Les cultures de riz de nos maris n'ont rien donné.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Voilà le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.